Que comptez-vous faire pour les étudiants? Alors, bon, moi, je ne me présente pas avec des promesses, en veux-tu, en voilà. Je ne serai pas élue, je suis à contre-courant, mais je ne fais pas comme si. Je ne fais pas comme si. Ce que je porte, moi, dans cette élection, la politique que je porte, c'est une politique de lutte. Et je dis aux étudiants que, y compris un revenu minimum pour se consacrer complètement à leurs études, hein, et pas être inquiétés
Ça te convient pour
pas se demander. Où est-ce qu'ils vont dormir dans un mois, etc. Tout ça, en fait, pour l'obtenir, il faudra qu'ils se battent.
Et vous l'estimez
Il
à
faudra qu'ils se
combien?
battent. Moi, je l'estime pas. Je l'estime à rien du tout. Ce que je sais, c'est que ça sera proportionnel à la combativité des jeunes. Il faut la révolte des jeunes et des jeunes étudiants. Sinon, rien ne leur tombera tout cuit dans la rue. Pardon, rien ne leur tombera tout cuit dans la bouche. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que
Est-ce que
ça
le
se
fait de ne pas
passe.
avoir de chiffres, c'est pas problématique? Parce que justement, quand on met des chiffres sur la table, c'est ce qui permet quelque part de bah voilà, poser des bases et de se dire bah voilà, on sait que les jeunes, ils ont besoin de telles sommes d'argent tous les mois.
Non, le chiffre sur la table, c'est pour appâter les lecteurs. C'est ça. Hein. Tous ceux qui savent très bien aujourd'hui qu'ils ne seront pas élus, et il y en a un petit paquet, eh bien, ils nous expliquent qu'eux, ils feront un revenu minimum pour les étudiants à 1 000 euros. Moi, je dis que
Mais est-ce que
oui.
c'est pas la même chose quand vous proposez le SMIC à 2000 euros?
Non,
Parce que vous aussi, vous.
mais parce que clairement, moi, je dis, 2 000 euros, c'est ce qu'il faut pour vivre dans cette société. Et 2 000 euros pour les étudiants d'ailleurs aussi. 2 000 euros, oui,
Donc
c'est
c'est
ce
un.
qu'il faut
Voilà,
pour
donc.
vivre. Mais ces 2 000 euros-là, moi, je ne prétends pas les accorder du haut de l'Élysée. Je dis que c'est un objectif de combat.
Mais
Je
vous posez
dis
un
que
objectif de combat que vous ne posez pas pour les
c'est un
jeunes.
objectif de
Ouais.
combat, mais d'abord, entre parenthèses, dès qu'il y aura la volonté de se battre, dès qu'il y en aura qui s'engageront dans la lutte, dans la bagarre, mais ils n'auront pas besoin de moi pour fixer leurs objectifs de lutte, hein. Et ils en discuteront de façon démocratique, parce que ce sera ça la démocratie, la vraie démocratie.
On va passer à la question suivante.
Alors bonjour Nathalie Arthaud. La question du coup que je souhaiterais vous poser, c'est quelles sont les mesures que vous comptiez prendre niveau écologie?
Trois mesures, par exemple.
Alors la première mesure, c'est l'expropriation de toutes les multinationales. Comme ça, on les prend bien en main, on planifie de façon démocratique, c'est-à-dire qu'ensemble, on décide qu'est-ce qu'on produit. Ensemble. Et je suis sûre qu'on arrêterait de fabriquer les yachts de luxe, là. Vous savez, c'est le yacht de Jeff Bezos, là, qui fait plus de 240 mètres de long, qui sortait même pas du chantier naval, hein. Il fallait enlever un pont historique de Rotterdam. Ben, je pense que tout ça, on arrêterait. Je pense qu'on arrêterait avec les engins de mort, hein, avec les missiles, les avions de combat, etc., etc. Donc, on prend en main les multinationales, on les exproprie et on soumet à la démocratie ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur demande de produire. Voilà, donc pour moi, ça serait la mesure essentielle, parce que on arrêterait avec ce gâchis inouï, inouï, inouï.
Deuxième mesure.
Ben, la deuxième mesure, c'est la planification. On doit planifier, c'est-à-dire qu'on doit recenser les besoins, on doit coordonner les choses. On arrêterait avec ce gaspillage incroyable. C'est quand même dingue de se dire que, voilà, les trusts, elles produisent, 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 ils savent même pas finalement, s'ils réussiront à les vendre, et puis parfois d'ailleurs ils jettent, regardez, c'est des millions de produits que Amazon jette aujourd'hui, hein, donc c'est un gaspillage inouï. En revanche, il y a beaucoup de choses qui devraient être produites, qui devraient être fabriquées, qui ne le sont pas. Donc on marche sur la tête. La loi de l'offre et de la demande, c'est fonctionner à l'aveugle.
Et une autre à retenir, une troisième.
Ben, une autre à retenir, c'est que en planifiant, en recensant, bah je pense qu'y compris on pourrait se poser la question de comment, quel type d'énergie. Moi, je pense que tous ceux qui réfléchissent à quel type d'énergie, etc., c'est très bien, c'est très bien. Mais tant que les trusts de l'énergie qui monopolisent la fabrication de l'énergie font ce qu'ils veulent, il faut quand même bien avoir en tête.
Mais vous, dans votre
On
monde
peut
idéal,
tirer,
dans
on
votre
peut
monde
tirer.
idéal, ce serait quoi
Dans
l'idée?
mon, d'abord, dans mon monde idéal, on prend les choses en main et on ne laisse pas Total, Engie, Exxon, EDF décider
Et
à
après,
la
on fait
place de tout
quoi?
le monde. Mais attendez, ça c'est quand même pas un détail.
Bien sûr,
Parce que moi
bien
je veux
sûr.
bien que tout le monde devienne des experts de l'énergie, mais à partir du moment où on n'a pas le droit à la parole, c'est quand même pour ça qu'il faut se battre, non? Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'énergie. Mais quand j'entends le GIEC rendre ses rapports, je me dis, bah oui, ils ont raison, on doit leur faire confiance. Sauf que leurs paroles sont des paroles creuses, dans la mesure où, de toute façon, bah, c'est les actionnaires de Total qui décident au final.
On va passer du coup à la question suivante.
Bonjour Nathalie Arthaud, je voulais savoir si jamais vous passez aux élections présidentielles, Est-ce que les entreprises appartiendront à l'État? Et si oui, pourquoi?
Alors oui, toutes les grandes entreprises, je parle des multinationales, appartiendront à nous tous. À nous tous, parce que l'État, y compris, il doit être changé, il doit être bien plus démocratique. Mais ça appartiendrait à nous tous. Et enfin, on les ferait fonctionner d'abord pour qu'elles satisfassent les besoins de tous et pas pour qu'elles fonctionnent pour les caprices de quelques grands actionnaires.
Question suivante, que je vous laisse lire.
Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les divergences les plus fondamentales entre vos propositions et celles de Philippe Poutou? Alors, c'est vrai que nous, clairement, nous basons toute notre politique et notre perspective de renverser le capitalisme, commune donc avec Philippe Poutou, sur la capacité des travailleurs du monde du travail à se révolter. Les travailleuses et les travailleurs. Et c'est vrai que moi, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, je fais ma campagne au nom du camp des travailleurs parce que moi, je suis convaincue que cela viendra de ceux qui sont au cœur même de la production capitaliste. Une des différences dans cette campagne, plus qu'une divergence d'ailleurs, c'est que moi j'insiste sur le rôle des travailleurs. J'insiste sur le fait que les travailleurs, ils doivent prendre conscience de ce qu'ils sont, de la force qu'ils ont. Ils font tourner la société, ils produisent tout, les profits et même les capitaux de la classe capitaliste, ils produisent tout. Donc ils ont entre les mains, j'ai envie de dire, la bombe nucléaire en fait. S'ils décident d'arrêter finalement de travailler pour la grande bourgeoisie, hein, de travailler selon ses ordres, selon ses desiderata, ils peuvent changer la société.
Question suivante. Réponse courte, s'il vous plaît, Madame Artaud, sur un autre candidat à l'élection présidentielle.
Allez-vous appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon s'il y a face à face avec Macron au second tour? Ah, alors moi, je suis fait la campagne au premier tour pour insister sur une idée. Sur l'idée que aujourd'hui, on s'enfonce dans la crise, en fait. On s'enfonce dans la crise économique, dans la crise politique et dans la crise sociale. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, eh bien là, en fait, on bascule.
Permettez-moi de vous recentrer vraiment sur la question par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà, Jean-Luc Mélenchon est au second tour, qu'est-ce que vous faites?
Moi, vous savez, depuis le début, tout le monde cherche à zapper la campagne du premier tour. Donc moi, il est hors de question qu'avant le premier tour, j'aille sur toutes les hypothèses possibles pour le second tour.
On va passer à la question suivante.
Bonjour Nathalie Artaud, j'ai appris que vous étiez prof d'SES. Comment on mène une campagne en étant prof et puis surtout, comment ça se passe avec les élèves? Merci.
Alors, le temps de ma campagne, j'ai eu un congé électoral, voilà, les 2 mois là pour faire campagne parce que c'était pas possible de faire les deux. Voilà. Maintenant, avec mes élèves, ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est des discussions. Je pense que finalement, je suscite l'esprit critique. Voilà, l'esprit critique et ça, c'est très bien.
La question suivante.
Bonjour Madame Nathalie Artaud, bonjour Brut. Ma question était, pourquoi avoir appelé votre parti Lutte Ouvrière alors qu'auparavant vous étiez professeur, ce qui n'a rien à voir avec un métier manuel comme les personnes, eux, ouvrières? Merci.
Merci pour cette question, parce que pour nous, la classe ouvrière, c'est le monde du travail, en fait, dans son ensemble. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui doivent aller travailler pour gagner leur vie. Et ce sont ceux qui portent la société. En fait, ce sont les essentiels, ce sont ceux qui sont indispensables. Donc, pour moi, c'est une grande chaîne, la classe ouvrière, le monde du travail. Et pourquoi on s'appelle Lutte Ouvrière? C'est parce que nous pensons que ce sont eux qui, aujourd'hui, sont finalement sous la dépendance d'un patron, qui sont victimes, qui sont exploités, qui se révolteront un jour et qui la changeront du tout au tout, cette société, qui chercheront leur émancipation et donc qui feront la révolution.
Question suivante sur un sujet très important.
Bonjour Nathalie Artaud, je me demandais quels sont vos projets pour lutter contre les violences domestiques.
Je pense que un des problèmes, c'est l'isolement. C'est l'isolement des femmes, c'est l'isolement des jeunes qui sont finalement piégés dans une espèce de huis clos mortifère et souvent sous la domination, hein, donc évidemment d'un père, d'un frère, de leur mari. Et donc je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on tisse des liens, il faut qu'on se connaisse mieux et puis il faut que les femmes elles puissent avoir leur indépendance, qu'elles puissent se dire bah oui, je suis capable, j'aurai un boulot, je pourrai payer un loyer, etc. Donc c'est pour ça que pour moi aussi les revendications en termes d'emploi et de salaire, elles sont, c'est d'abord des revendications féministes, parce que le pire c'est effectivement d'être sous la dépendance économique et de ne pas pouvoir du coup partir, ne pas trouver la force, hein, et même la perspective de se dire eh bien Je vais vivre de façon indépendante. Mais je sais aussi que pour ça, il faudra changer toute la société. Je sais qu'il faudra des luttes. Et moi, j'appelle dans cette, dans les quelques jours qui viennent à ne pas croire dans les belles promesses. Ça fait des décennies qu'ils entassent les lois, hein. Alors, les lois pour faire l'égalité entre les femmes et les hommes, pour essayer d'aider. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, pour moi, le féminisme, c'est pas un catalogue de promesses électorales. C'est d'abord un combat. Un combat que les femmes doivent mener, que les femmes doivent mener pour pas être seules, et que les femmes doivent mener pour conquérir leur indépendance financière.
L'indépendance, justement, c'est comment réussir à se retirer d'une forme d'emprise, là où la société ne peut pas forcément réussir à toujours intervenir.
Cette emprise morale, psychologique, c'est aussi, et l'emprise aussi parfois des idées traditionnelles, le poids de la famille, etc., etc., elle est d'autant plus, comment dire, présente elle se referme sur nous comme un piège à partir du moment où de toute façon on se dit que tout seul on n'arriverait pas à vivre. Voilà, tout seul on n'arrive pas à vivre. Moi je connais un certain nombre de jeunes filles, de jeunes lycéennes qui sont en rébellion contre leurs parents, mais qui voient pas du tout comment elles peuvent y arriver toutes seules dans cette société où c'est marche ou crève, dans cette société de sélection, dans cette société où il y a du chômage de masse. Donc ces jeunes filles, elles doivent savoir que oui, la société, elle peut les mettre à l'abri, elle peut leur offrir la possibilité, eh bien, de rebondir, d'être protégée en ayant un toit, en étant accompagnée. Mais il faut aussi que cette société, eh bien, elle offre des perspectives en termes d'emploi, en termes d'épanouissement professionnel, et qu'on soit convaincu que oui, on peut avoir son indépendance et choisir véritablement sa vie.
La question suivante sur TikTok.
Comptez-vous expulser les délinquants et criminels étrangers ? Quid des clandestins ? Alors d'abord, des délinquants et des criminels étrangers, français, enfin voilà, ça c'est... Moi quand j'entends l'extrême droite réduire la délinquance à l'immigration et aux étrangers, ça me révolte, y compris les violences. Les plus importantes, ce sont les violences domestiques qui existent au sein des familles. Hein. Ce ne sont pas des étrangers, c'est pas une question d'immigration. Voilà, donc moi je m'élève contre ce petit poison-là que distille l'extrême droite, hein, ce petit venin-là raciste qui est complètement délirant. Voilà, délirant. La délinquance, la violence, je pense qu'elle est aussi le produit de cette société et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il faut chercher à la changer de fond en comble.
Mais vous, par rapport aux flux migratoires, aux réfugiés, vous accueillez tout le monde sans exception ?
Moi, je me dis que je peux moi-même avoir besoin de fuir mon pays. Vous savez, les Ukrainiens, là, qui fuient par millions leur pays, ils n'imaginaient pas qu'il y ait des bombes qui puissent leur tomber sur la tête. Moi, demain, il peut se passer la même chose. Je peux avoir besoin de fuir mon pays. Eh bien, j'espère qu'il y aura un autre pays qui acceptera, en effet, de m'accueillir. Donc, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je raisonne en fonction des besoins des pauvres, des besoins des travailleurs. S'ils ont besoin de passer des frontières pour vivre, eh bien, ils doivent en avoir cette possibilité.
Mais question simple, réponse simple. Est-ce que vous accueillez tout le monde, justement? On parlait des divergences avec Philippe Poutou. Philippe Poutou, lui, il veut abolir les frontières. C'est on accueille tout le monde. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ?
Ah, mais je suis complètement. Les frontières ne sont là que pour les pauvres. Donc, pour les travailleurs, en fait. Parce que les plus riches, ils peuvent avoir. Leurs millions leur permettent de franchir toutes les frontières. Donc, oui, moi, je suis pour l'ouverture des frontières et qu'on permette à tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans leur pays, eh bien, de circuler et de trouver un endroit pour pouvoir vivre.
Sans distinction entre pays en guerre et migration économique.
On meurt des bombes et on meurt de famine aussi. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est un droit à la vie. Tant que ce système économique capitaliste n'assure pas ce droit à la vie à tous les êtres humains de cette planète, eh bien moi je pense qu'ils doivent pouvoir en effet circuler.
On va passer à la question suivante.
Pourquoi 2000 euros par mois pour le SMIC, n'est-ce pas trop pour provoquer une inflation exponentielle ? Bernard Arnault touche deux SMIC, donc 2000 euros, à la minute, chaque minute, deux SMIC. Bernard Arnault, ceux qui sont en dessous, ça doit être quoi ? Un SMIC à la minute ? Bon, et là, ça ne crée pas de l'inflation ? Ces profits là qui explosent, ça ne crée pas de l'inflation ? Ces grandes fortunes, ça ne crée pas de l'inflation ? Alors, si, ça en crée, hein, voilà. Donc, il faut bien, quand même bien réaliser que parler d'inflation, dès que on parle, nous, de notre gagne-pain, c'est une escroquerie, c'est une façon de nous dire, taisez-vous, vos revendications, elles sont nulles et non avenues. Moi, je dis très clairement que cet argent-là, l'augmentation de salaire, il faut aller les chercher sur les profits, sur les grandes fortunes. Alors déjà, ça ferait diminuer l'inflation que les plus riches provoquent, et en plus, ça nous permettrait à nous de vivre.
La question suivante.
Alors, comment comptez-vous faire sortir la France du système capitaliste ? Eh bien, moi, je suis convaincue que, de toute façon, là, ce qui nous attend, c'est des révoltes. C'est des révoltes de la jeunesse, j'espère, des révoltes ouvrières aussi. On a connu les mouvements des Gilets jaunes, mais moi, j'imagine que ça peut revenir, puissance 10, puissance 100. Et ce que j'espère, c'est qu'au travers de ces révoltes, eh bien, la conscience naisse que c'est pas seulement le problème de la personne qui occupe le siège présidentiel, c'est pas seulement le problème du président de la République, mais que c'est le problème de tout un système qu'il faut en effet renverser. Il faut contester la classe capitaliste, il faut contester les grands actionnaires qui font leurs lois sur les grandes entreprises, sur les grandes banques, sur le secteur pétrolier et qui du coup dominent toute l'économie. Donc c'est cette classe sociale là qu'il faut contester. Moi je pense qu'il faut l'exproprier. Donc j'espère qu'une révolte sociale arrivera jusque-là, parce que je pense que c'est ça, faire la révolution.
Vous dites des gilets jaunes puissance 10, puissance 100, c'est ce qui est parfois annoncé même depuis des mois, ça n'arrive pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup, alors que il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Comment vous l'expliquez, vous ?
Bah là, ça bouge pas beaucoup, y compris le cirque électoral et cette présidentielle, là où on nous dit, mais voilà, notre sort, il peut changer si on vote bien, etc., etc. Hein, on l'entend tous les jours. Donc, évidemment, un certain nombre se disent, bon, bah, on va attendre l'élection, on va essayer de faire le maximum, etc., de changer les choses comme ça. Mais clairement, une fois que l'élection est faite et que la politique anti-ouvrière, elle s'impose, bah, là, je crois que la conscience, elle est encore plus présente que finalement, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire les choses, c'est à nous de nous inviter dans la politique, d'inviter nos revendications, et ça veut dire des luttes, ça veut dire des manifestations.
Je vous laisse voir la question suivante.
Bonjour Madame Artaud, ma question est, en quoi pensez-vous que le communisme est meilleur que le capitalisme, sachant qu'il n'a pas eu tant de succès dans les pays qui l'ont adopté ?
Alors, pour moi, aucun pays n'a jamais adopté le communisme, hein, parce qu'il y a eu une révolution d'ampleur qui a finalement transformé vraiment la société, c'était en Russie. Et puis finalement, les révolutionnaires, les ouvriers, les paysans qui avaient dirigé pendant un temps, en particulier qui avaient arrêté d'ailleurs la Première Guerre mondiale, hein, je tiens à le souligner, parce que ça, c'est quelque chose de très important, vu la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, ils se sont fait confisquer le pouvoir par une bureaucratie, ce qui fait que, en fait, ça a été une caricature de société communiste, avec une planification qui, finalement, défendait d'abord et avant tout les intérêts d'une caste, la caste de la bureaucratie qui était aveugle, etc. Donc, en fait, on n'a pas pu réellement voir ce que ça pouvait signifier une société communiste. Par contre, on a suffisamment de recul pour réaliser ce que c'est le capitalisme. Et ce que c'est le capitalisme, bah, pour d'abord l'écrasante majorité de la planète, c'est-à-dire la misère, le sous-développement, parfois même, et on va en entendre parler à nouveau à cause des spéculateurs sur le blé, la famine. Donc ça, c'est une réalité de ce monde capitaliste, c'est que pour qu'il y ait des citadelles très riches, des citadelles capitalistes là, très développées, très où il y a en effet un niveau de vie qui s'est amélioré, eh bien en fait il faut des régions entières qui soient pillées. Et quand on regarde ces réussites du capitalisme entre guillemets, hein, si on regarde les États-Unis, l'économie la plus riche, regardez ces inégalités. Regardez la souffrance d'un très grand nombre de femmes et d'hommes de classe populaire. Donc, moi, pour moi, la société capitaliste, elle est condamnée dans le sens où elle fait toujours, comment dire, elle est basée sur l'exploitation et sa prospérité, elle est basée sur le malheur de la grande majorité. Voilà. Et moi, je me dis quand même, une société là, où nos vies à tous, notre boulot, notre salaire, dépend de quoi ? Des cours boursiers ? Dépend des spéculateurs ? Dépend des lois du marché ? Mais je me dis, c'est dingue ! Qu'est-ce que c'est que ce Moyen-Âge capitaliste où on ne maîtrise pas notre économie? On laisse ça aux lois du marché, à quelques monopoles, etc. Donc pour moi, non, pour moi, c'est une économie qu'il faut renverser.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.
Merci.